minutes et t'en bouffes 5 déjà.
Non mais ça va, c'est bon. Ah, regardez, on est au Social Selling Forum Jubilé, il y a l'atelier sur le growth hacking responsable et respectueux, n'est-ce pas, et pas bourrin. Et c'est Frédéric Canvet, Cyril Bladier, Sophie Astrid, Lionel qui sont là, Annick, je sais pas qui, Jean-François, et puis plein d'autres qui sont là, montrez-vous, c'est sympa. Voilà.
J'ai cru que...
Allez-y. Allez-y, je vous laisse.
Jean-François ou Julien, vous aviez un complément à apporter? J'ai vu que Jean-François, tu as activé ton micro, donc peut-être tu voulais ajouter quelque chose.
J'avais une question rapide pour Fred, mais cette question est plus pour Julien. Je vais plus laisser parler Julien. Ma question rapide, c'est est-ce que tu t'es fait gauler avec des warnings de LinkedIn en utilisant Link Helper ou en utilisant autre chose?
Alors moi, je peux répondre. Je peux répondre aussi. C'est pas LinkedIn Helper qui m'a fait avoir, c'est mon assistante à distance.
D'accord, ok.
Alors, en fait, moi, je vais apporter un complément de réponse à ça. Tu as plusieurs typologies d'outils. LinkHelper, etc., sont des extensions Chrome. Et ça, du côté serveur, donc du côté LinkedIn, c'est ultra facile à détecter. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec Prospectin. Depuis quelques semaines, les gens qui utilisaient Prospectin ont beaucoup de mal à l'utiliser parce que ça a été flagué par LinkedIn. Après, tu as d'autres technologies. Tu as d'autres technologies qui permettent de simuler le comportement d'un humain qui utiliserait LinkedIn. Ça, c'est beaucoup plus difficile à détecter. Maintenant, la plupart du temps, ce qui fait qu'un compte est flagué, va y avoir d'une part les activités du compte, donc le volume d'actions, combien de demandes quotidiennes de connexion, combien de messages, est-ce qu'à côté de ça, il y a d'autres interactions, des likes, des commentaires, des publications. C'est l'algorithme qui prend en compte un ensemble de choses. Ce qui va flaguer le plus souvent des gens qui sont « bourrins » entre guillemets et qui utilisent des outils d'automatisation, ce n'est pas l'outil, c'est le fait de harceler ou de se faire signaler à LinkedIn par des utilisateurs mécontents. C'est ça qui souvent va faire que votre compte va être en warning, que votre compte va être en vérification ou en suspension.
Ouais, bah, je suis d'accord avec ça, ouais. Parce que c'est vraiment une question d'équilibre, j'ai le sentiment par rapport à ça. Parce que moi, j'utilise Prospectin. Et donc, par ailleurs, j'ai une vraie activité. Et comme disait Fred, de toute façon, il y a un premier message automatisé. Puis après, je reprends la main avec mon assistante pour répondre de façon personnalisée aux gens. Et même quelqu'un qui tout d'un coup me dit « mais je ne vous connais pas, pourquoi est-ce que vous me demandez en contact et qu'est-ce que vous allez me vendre ?» parce que ça m'est arrivé la semaine dernière. Alors, je lui ai expliqué, je lui ai dit « mais simplement parce que vous ne me connaissez pas », je lui ai dit « ben si, je vous connais parce que vous m'intéressez, ça fait un moment que je suis votre… si vous regardez, ça fait un moment que je suis votre profil et que je suis intéressée par ce que vous faites et que je me disais qu'on avait peut-être des choses à faire ensemble. » Et du coup, c'est devenu un client. Donc, voilà, c'est… mais après, effectivement, je crois qu'il y a une vraie question d'équilibre par rapport à ces outils et que le growth hacking, ce n'est pas un gros mot, qu'il y a des automatisations qui peuvent vraiment nous aider à accélérer notre prospection. Par contre, moi, j'ai diminué un maximum le nombre, je dirais, d'actions automatisées par jour, par exemple, pour d'abord pouvoir le faire à la mano, c'est-à-dire reprendre la main et avoir une vraie discussion et une vraie interaction avec les gens dans leur fil, quoi. Parce que si je rentre 10 personnes chaque jour, je ne vais jamais réussir, finalement, moi, perso, alors on est deux, donc ça arrive, à suivre les gens sur leur actualité et à interagir avec eux comme on le fait, comme je le fais avec vous, que je connais. Donc voilà, c'est essayer de connaître plus de gens et d'une façon plus équilibrée, quoi, pour en faire les clients.
Et je rajouterais un petit tips qui marche vraiment bien, qui est pour moi sans risque et que tout le monde peut faire, c'est avec LinkedIn Helper et les autres outils, qui est une version maintenant PC Windows, hein, ce qui est beaucoup plus rassurant, c'est l'endorsement. Ça, en fait, vraiment, c'est un truc qui mange pas de pain. Moi, je le fais pour entretenir mon réseau. Alors, je sais pas, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont dans mon réseau qui ont reçu ce petit endorsement, mais ça marche bien. Par exemple, là, un exemple simple, et ça m'a fait sourire, Isabelle Mathieu, qu'on connaît tous, hein, qui est vraiment une pro des réseaux sociaux. Donc, elle a eu mon endorsement en automatique et elle m'a dit « Ah, merci, je ne sais plus quoi, Frédéric. » Alors, je n'ai pas dit, maintenant elle le saura, mais je n'ai pas dit « C'est un truc automatique », mais ça a permis de reprendre contact avec elle, rééchanger. Et ça permet comme ça d'entretenir un réseau parce que si tu as une interaction par message avec la personne, tout de suite, tu vas remonter dans son flux parce qu'autrement, tu disparais. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un outil simple à utiliser pour rester dans les mémoires de son réseau. Voilà, c'était une petite parenthèse.
Dans ce genre d'automatisation, ce que j'aime bien, c'est les anniversaires. Les anniversaires, c'est une autre façon de le faire. Et la plupart des logiciels d'automatisation permettent de faire de la spin syntaxe, c'est-à-dire de mixer un certain nombre d'éléments de phrases pour faire des phrases différentes sur chaque message qu'on envoie. Moi, typiquement, j'ai utilisé 50 citations de personnes connues et chaque anniversaire, j'envoie une citation de personnes connues. Et sur ce type de message, j'ai 20-30% de retour parce que voilà, j'ai mis des citations de De Gaulle, de Churchill, d'Edith Piaf, de Jacques Brel, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose de totalement automatisé qui est en dehors de la simple demande de connexion ou du simple message « vas-y, clique sur mon lien, j'ai un truc super pour toi » et qui permet de rajouter de l'interaction avec le réseau et effectivement de remonter dans les flux de votre audience.
Alors moi, j'ai un truc à partager et une question au choix pour Julien et Fred. D'abord, le truc à partager, c'est quand j'utilise ces outils pour faire des demandes de connexion, j'essaye de ne pas demander une connexion brutalement. Je dis, vu votre métier, j'ai pensé que cet article, et là, je prends soit un article que j'ai sur LinkedIn, soit sur un blog, j'ai pensé que cet article-là pouvait être intéressant pour vous. Si tel est le cas, eh bien, connectons-nous, comme ça, vous verrez que je publie régulièrement sur ces sujets-là. Et en revanche, si ça ne vous intéresse pas, je ne vous embête pas. C'est touchy parce qu'on a 300 caractères dans la demande d'invitation, mais ça évite de faire une invitation, je veux me connecter avec toi, c'est plutôt une invitation, je te donne quelque chose. Donc voilà le truc que j'utilise. J'utilise très peu ça, les gens qui me connaissent savent que je fais plutôt du pool. Et maintenant, mes questions pour Julien et Fred, c'est quand vous systématisez ce genre de démarche, donc de demande de connexion, comment est-ce que vous faites justement pour pas vous faire flaguer soit par LinkedIn qui veut limiter ça, soit pour vous faire dénoncer par des internautes qui voudront dire « moi, je ne le connais pas », etc. C'est quoi vos trucs pour ça?
Alors, je réponds en premier, je te laisse Julien. Alors moi, ma réponse, elle est simple, c'est que je cible mes trucs. En fait, je fais une recherche LinkedIn sur les mots-clés, et ensuite, je vais nettoyer, cleaner cette liste-là pour m'adresser uniquement à des gens qui sont dans ma cible. Et quand je leur dis, j'ai mis le message en fait dans le chat là, c'est un message qui dit « je suis passionné d'expérience client et j'ai une BD ». Et en fait, le fait de mettre une BD, que j'ai fait faire, hein, que je n'ai pas fait moi-même, fait un truc un peu fun, et les gens disent « ah ouais, c'est curieux, parlez-moi de cette BD ». Et c'est un peu comme toi avec ton fameux article ou tes séries. Et je trouve que c'est plus fun parce que c'est plus, c'est plus original. Si tu dis j'ai un livre blanc, un article de blog, ouais, ok, d'accord. Une BD, je dis, ah ouais, tiens, ça m'intéresse. Voilà.
Le point par rapport à ce que disait Jean-François, c'est que quand vous invitez du monde sur LinkedIn, si trop de gens refusent, c'est pas trop gênant, mais si trop de gens refusent et en plus cliquent sur je ne connais pas cette personne, là, clairement, votre compte va finir par être bloqué.
Ouais. Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent parce que j'ai un gros compte aussi et j'ai bien ciblé. Voilà, je te laisse Julien après compléter.
Oui, je pense que le fait de commencer à donner de la valeur au moment de l'invitation, c'est vraiment dans les bonnes pratiques. Ça me plaît. Moi, dans ma pratique, en fait, je gère des volumes de comptes LinkedIn. Donc, ce n'est pas un, c'est plutôt 10, 20, 30, 50 ou 100 comptes pour une société. Donc, j'ai des problématiques qui sont un peu différentes. Moi, ce qui flag ou ce qui fait que je me fais signaler, c'est quand je configure mal et que j'ai 10 personnes la même journée qui vont aller faire une invitation au même contact LinkedIn. Ça, c'est des choses qu'on essaye d'éviter. C'est des choses qu'on a fait au début. Et on s'est aperçu que ça, les gens se sentent tout de suite offusqués, harcelés. Donc, je pense qu'il faut bien cibler, il faut bien configurer et bien utiliser ces outils et rester dans des choses qui paraissent fluides, naturelles, soft. Ce qui se passe sur LinkedIn, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose que ce qui se passerait dans la vraie vie. Des choses qu'on n'aimerait pas dans la vraie vie. Moi, je n'aimerais pas avoir 10 représentants qui viennent à la suite taper à ma porte. Donc, je pense qu'il ne faut pas le faire sur LinkedIn. Il faut rester. Ce n'est pas parce que c'est virtuel, ce n'est pas parce que c'est immatériel qu'il ne faut pas s'appliquer des principes de ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'aimerait pas dans la vraie vie.
Moi, j'adhère complètement, Julien. Je veux dire que je ne veux pas faire aux autres ce que je n'ai pas envie de subir, en fait. Donc, je pense toujours que je me mets toujours à la place de la personne qui reçoit. Et je me dis, quand moi, je reçois, il y a des choses, franchement, qui sont mal faites. Et ça, je n'ai pas envie. Et j'ai envie que ce soit que ça m'aide juste à gagner un peu de temps. Mais qu'après, la relation soit une vraie relation, quoi.
Après, pour les... On peut arriver à combiner un certain nombre d'outils. Là, je vais penser, alors peut-être Prospecting pour la demande de connexion, mais Prospecting, on va pouvoir l'intégrer avec Integromat, avec un CRM, etc. De façon à ce que, par exemple, les gens qui vont vous faire un retour en vous disant, dans le message duquel il y aura « mais pourquoi vous me demandez en connexion », cela leur envoyer automatiquement un message en disant « bon, ben, voilà, mais c'est juste retarder et s'éliminer une phase de réponse à la main de contacts qui seront potentiellement pas utiles. Après, on peut aussi s'excuser pour éviter de se faire signaler. Bon, mais je pense que ça change pas grand-chose. Avec des comptes anciens et des comptes avec du volume, j'ai envie de dire qu'on fait à peu près ce qu'on veut. Par contre, quelqu'un qui va créer demain un compte pour prospecter sur LinkedIn, qui va partir de zéro, celui-là, il faut qu'il fasse attention à son volume de demandes de connexion, à son volume de visites de profil, maintenant à son volume de recherche, etc. etc. C'est très différent entre un compte qui a 2, 3, 5, 10, 12 ans d'existence et un compte qui a été créé la semaine dernière. Vous ne faites pas du tout ce que vous voulez, vous ne faites pas du tout la même chose.
Jasmine, tu n'as pas encore entendu depuis le début de la session. Tu n'as pas ton micro activé.
Merci Cyril de me passer la parole. En fait, sur le gros hacking, je ne suis pas très, qualifiée là-dessus, mais en termes de vente, mais il existe aujourd'hui des techniques de gros hacking pour concevoir en fait des sites web. C'est un peu là où je peux me situer parce que on sait aujourd'hui que concevoir des sites web, ça peut demander une certaine ressource aux entrepreneurs. Et là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est souvent mettre la technique du gros hacking à la construction du design en fait d'un site internet. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans le site à enlever le plus de blabla possible. Et puis, selon l'objectif fixé de la stratégie marketing, construire le site au fur et à mesure. On peut partir d'un site, ce qu'on appelle un site one page, comme un peu comme une landing page, mais ce n'est pas ça, c'est vraiment un site qui se fait sur une page avec tous les éléments possibles pour commencer à récupérer soit des adresses mail, si ça fait partie de la stratégie de la personne, soit provoquer un rendez-vous téléphonique et justement utiliser cette technique de gros hacking, mais au design. De conception web. Donc, c'est un peu là-bas que je me situe. C'est vrai que niveau stratégie dans le gros hacking, je suis venue pour beaucoup plus pour écouter. Ça m'aide justement dans le design.
Une question, à partir de combien de demandes de contact simultanées ou par jour, on considère qu'on est rentré dans une phase de gros hacking avérée?
En fait, la question, Annick, je ne sais pas si c'est gros hacking avéré, la question actuelle, c'est plutôt... limite imposée par LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn a clairement mis une limite, c'est presque ce que j'ai compris, au nombre d'invitations faisables par semaine. Alors, il y a plusieurs bruits qui courent entre 100 et 200 invites par semaine. Je pense que c'est plutôt comme ça que la question, c'est jusqu'où on peut aller trop loin sans se faire bloquer. Parce qu'en fait, effectivement, je crois que c'est Julien qui disait une extension Chrome, ça détecte assez facilement. Mais au-delà de ça, ce que LinkedIn va détecter, je crois que c'est Frédéric qui en parlait, c'est l'activité du compte, c'est le rythme d'activité, c'est... En gros, tout ce qui ne rentre pas dans une action, dans un rythme qui est humainement tenable, va détecter une alerte auprès de LinkedIn et va faire que le compte va être... C'est juste là que ça se situe. Moi, j'ai eu plusieurs bruits. J'ai demandé confirmation à mes contacts LinkedIn, mais aucun n'a voulu me répondre sur la limite de... Je ne sais même pas, en fait, la boîte est tellement sclérosée, tellement fermée en interne, tellement cloisonnée que je ne suis pas sûr qu'en France, ils aient l'info du nombre d'invites qu'on peut faire par semaine sans risque de se faire bloquer. J'ai entendu entre 100 et 200, je ne sais pas si les...
Alors, moi, je te donnerai mon... En fait, moi, je fais souvent ça, en fait, par session parce que j'ai pas forcément... En fait, il y a des moments, en fait, où j'ai des webinaires et j'exploite mes contacts. Et à ce moment-là, je fais du direct message sur mes contacts à moi parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est aussi efficace qu'un emailing. Et là, en fait, c'est un webinaire ou un truc ou un événement ou une étude. Et là, tu fais une session et tu peux aller jusqu'à 200, 250. J'ai même parfois été jusqu'à 300, mais j'hésite. Je fais un peu gaffe. Alors, Julien, peut-être, tu as un peu plus d'expérience, mais j'évite d'aller trop loin. Et les demandes d'invite, pareil. C'est des sessions généralement sur une semaine. Et ben j'en fais. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait des grosses sessions, mais j'en fais une cinquantaine, centaine par jour, quoi, grosso modo. Parfois, j'arrête. Enfin, parfois, j'arrête, je recommence. J'essaye de pas non plus faire que du bourrin tout le temps, tout le temps. Voilà. Je sais pas, Julien, tu as notre.
Alors, sur un compte, on va dire un compte qui a entre 6 mois et 1 an. Je vais avoir deux scénarios. Je vais avoir le scénario du jour où j'ai publié quelque chose sur le compte. Ce jour-là où j'ai publié, je vais aller jusqu'à 150 visites de profil et 80 demandes de connexion. Ça, c'est le jour où j'ai publié 150 visites, 80 demandes de connexion. Le jour où je n'ai pas publié, je fais un abattement de 30%. Donc, je vais être plutôt aux alentours de 110 et plutôt aux alentours de 60-65. Et on reste dans des volumes qui ne posent pas de problème ou peu de problèmes. Sur mon compte perso, j'ai une utilisation qui est différente. J'ai vu une vidéo de Mathieu Germer il n'y a pas longtemps qui expliquait que lui, même à la main, il avait une utilisation de LinkedIn qui faisait que LinkedIn le prenait pour un robot. C'est-à-dire que Mathieu, il attendait le samedi matin pour faire les invitations, les réponses aux commentaires, en fait, toutes les actions LinkedIn, toute sa routine social selling. Il faisait ça d'un bloc le samedi matin et du coup, il se faisait punir par LinkedIn parce que il ne se passait rien de la semaine. Et sur une session de 2 heures, il faisait toute sa semaine de travail LinkedIn. Donc, ça ne marchait pas. Sur mon compte perso, quand je fais des demandes, j'ai un vieux compte, j'ai un peu plus de 10 000 connexions. Là, je fais 3 fois par semaine 150 demandes de connexion. Par contre, elles sont ultra ciblées. C'est des demandes que j'extrais de recherche Sales Navigator et que je réinjecte dans mon outil d'automatisation. Donc, je n'utilise pas du tout le module de recherche. Effectivement, Frédéric, tu as dit que le module de recherche LinkedIn n'était pas top. C'est même une catastrophe. Tu disais de ne pas aller jusqu'à la 100e page. Moi, j'ai envie de te dire, passer la 20e page, souvent la pertinence des requêtes va sombrer. Il n'y a même pas d'autre mot, ça va sombrer au-delà de la 20e page de recherche. Je préfère largement utiliser Sales Navigator, aller vraiment constituer une recherche de prospects, mettre ça dans un Excel, filtrer dans mon Excel pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut et après le réinjecter dans mon outil d'automatisation.
Moi, ça m'est arrivé une fois de me faire bloquer par LinkedIn, une seule, où toutes mes sessions ont été fermées en une seconde sur mon PC, tablette et téléphone et je faisais du manuel. J'étais totalement en mode manuel, sans outil quelconque. Mais je suis allé trop vite. En fait, j'avais un truc de base et je faisais trop vite des passages de ces navigateurs à LinkedIn avec des copier-coller de messages, constitution de profil. Et donc, LinkedIn a fermé mon compte tout de suite. Alors, c'était temporaire. J'ai pu réactiver, mais c'était juste la détection. Donc, ça montre bien que ce que LinkedIn détecte, c'est le rythme d'interaction qu'on va avoir et pas autre chose.
Ouais, et tous les outils en fait permettent de régler ce rythme-là. Tu peux choisir le nombre de sessions, enfin d'actions par jour. Et moi, des fois, ça m'arrive d'augmenter un peu sur des gros profils, justement, comme disait Julien, hop, tu t'augmentes un peu.
Revanche-moi, je ne sais pas si Julien, tu as le problème, mais moi, le problème que j'ai le plus dans ce contexte-là, c'est les comptes que je gère pour mes clients, où ils voient que je me connecte sur mon PC à leur compte, alors qu'habituellement, ils se connectent ailleurs à leur compte. Moi, j'ai un paquet de blocages de LinkedIn qui refuse, qui demande des identifications par code envoyé par SMS, etc. Ça, c'est super pénible. Moi, souvent, je bosse, surtout en ce moment, ma femme est au bureau. Moi, les gamins ont pas cours, mais la nounou, elle a cours, donc c'est un peu galère. Et j'ai ma journée de travail qui est en gros de 14h à 20h et de 23h à 2h du mat. Et aller bosser sur un compte client à 1h30 du matin avec un SMS qui lui arrive, généralement, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez vous aussi ces problèmes-là en connexion à distance ou pas du tout?
Alors moi, j'ai une petite solution pour ça, en fait, c'est que j'utilise, parce que voilà, c'est aussi une question en dehors du confort que le client ne reçoive pas un SMS à 2 h du matin, c'est aussi la sécurité du compte client. Tu travailles en délégation de gestion du compte, tu n'as pas envie de scratcher le compte
C'est clair.
qu'on t'a confié, etc.
C'est
Donc
clair.
moi, j'utilise un service de proxy
Ouais, c'est ça.
3G pour ça. C'est-à-dire que LinkedIn a l'impression que je me connecte à LinkedIn à partir d'un téléphone portable. Donc, peu importe là où je suis, y a pas de, c'est normal. Et ça permet même que le client soit connecté en même temps que toi. C'est-à-dire que le client, il peut naviguer sur son PC, sur son compte LinkedIn, et toi, tu peux avoir une autre instance ouverte, chez toi parce que tu es pour LinkedIn connecté sur un téléphone portable.
Ok, pas con.
Ouais, moi, idem, j'utilise un petit VPN pour mon assistante.
Est-ce que...
Je voulais poser une... Oui, voilà, je voulais poser une question. Là, on est en train justement de parler de gros comptes. Quand on est indépendant, quels sont les outils que vous pouvez conseiller? Comment construire justement cette stratégie de gros hacking éthique? Déjà, quels sont les éléments qu'on doit mettre dans ce genre de stratégie? Parce que oui, on se dit, bah, ça peut être aussi accessible à des entrepreneurs, hein, à des indépendants, à des consultants qui se lancent. Donc, quels sont ces éléments qu'on met dans cette stratégie et actuellement, en 2021, de pouvoir faire cela sans se faire voilà, déjà bousculer par LinkedIn?
Le plus simple, le plus difficile, c'est de réussir à générer de l'entrant, mais tout le monde n'y arrive pas. Les uns ou les autres, réponse à cette Jean-François, peut-être? Pas de réponse à apporter? Ou t'as pas entendu?
Jasmine, moi j'ai une petite boîte, donc j'ai commencé à la mano il y a quelques années déjà. Annick, tu sais aussi, voilà, on se parle souvent. J'ai un sales navigator qui, comme dit Julien, bah, permet d'être hyper pointu sur ma recherche et sur ma cible. Donc mes cibles sont extrêmement claires. Après, bon voilà, il y a un coût quand même à chaque fois et quand on démarre. Alors il y a déjà un moment que j'ai démarré, heureusement. Mais j'ai attendu en fait, hein, j'ai fait à la mano pendant longtemps et peut-être qu'aujourd'hui, ben, ça me permet de ne pas être blacklisté quand je fais des choses un peu plus, parce que j'ai déjà un peu de monde sur mon compte et j'ai un prospecting, j'ai une assistante commerciale qui s'occupe des scénarios. On est deux à travailler maintenant sur le fait de faire entrer, grossir la communauté et de commencer à envoyer justement des mails quand on fait des webinaires ou quand on a des événements. Moi, j'ai fait une campagne là avec de la vidéo, puisqu'on propose de la vidéo web. Ça a plutôt bien marché parce que les gens sont plutôt sensibles à la vidéo. C'était une proposition d'aller voir ce qui est bon de faire comme vidéo pour le web. Voilà, donc ce que je peux te dire, c'est voilà ce que j'utilise. C'est pas très très compliqué. J'entends Julien. Avec Julien, on parle de temps en temps et je le remercie parce qu'il me passe des tuyaux sur un certain nombre de choses et je l'écoute souvent sur le social selling parce qu'il apporte beaucoup de choses.
Julien, la ressource, Julien.
Oui, j'ai aussi beaucoup lu Fred, donc ça m'aide beaucoup aussi. Et puis je vais écouter Jean-François tout à l'heure dans sa keynote. Voilà, après j'ai progressé petit à petit, je me suis formée, j'ai progressé et j'essaie de le faire dans mon ADN, et je connais le tien, Jasmine. Et de ne pas dépasser ce que je disais tout à l'heure, à la fois il faut que je gagne ma vie, il faut que je rentre
dedans,
surtout aujourd'hui. On n'a pas, on n'a plus le même flux de clients, je dirais, avec la Covid, on est coincé, donc on cherche tous à entrer plus de leads. Et comment on le fait de façon responsable, c'est la vraie question. Ouais, c'est la vraie question, mais il y a des outils qui nous y aident. Moi, j'ai gagné beaucoup de temps aujourd'hui, malgré tout, et mon réseau grossit, et ma notoriété aussi, et mon nombre de clients aussi. Mais j'ai une vraie activité. Alors après, c'est ce que je disais, la question d'équilibre, Cyril en parlait aussi, mais c'est vraiment une question d'activité. Alors on peut se faire coincer à la mano si on fait quelque chose de trop rapide pour l'algorithme, mais si on a une activité, je dirais, d'interaction, donc plus on va interagir et plus on va avoir un comportement humain et social, je crois, et moins on risque de se faire prendre en utilisant ces outils-là. Voilà.
Je sais que tu avais fini, excuse-moi Sophie.
Non, je t'en prie.
Je sais que tu avais terminé, j'aime pas.
Non, pas de souci, pas de souci.
Moi, j'utilise aucun de ces outils. Enfin, je les ai tous utilisés parce que j'ai du mal à parler d'outils et donner un avis sans les avoir utilisés. Donc, j'ai tous essayé. J'en utilise absolument aucun, du tout. Moi, c'est que de l'entrant. Maintenant, c'est du semi-entrant, c'est-à-dire que je me limite plus aux publications. Et je reviens aux articles, j'avais un peu laissé tomber les articles, pas pour des questions d'algorithme, mais pour des questions de temps. Moi, l'année dernière, j'ai eu en moyenne plus de 100 prospects par mois au téléphone. Donc, c'est juste gérer 100 rendez-vous prospects suivis derrière tous les mois pendant 9 mois. C'était juste top, mais extrêmement compliqué à gérer. Donc, pas tant publier des articles. C'est la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de posts, un peu arrêté les articles. Là, j'ai mis un peu le holà parce que c'était trop... trop lourd. Et puis, je suis en train de revenir aux articles parce que les... Malgré tout, réussir à, en 1300 caractères à capter l'attention, à la maintenir, générer du lead, c'est super compliqué. Le post, c'est un peu la négation totale de la réflexion. Et les trucs à la con du style, je fais un post et puis likez-moi et commentez-moi pour que je vous envoie un machin derrière pour faire artificiellement gonfler, monter son réseau, ça me gave au plus haut point. Et généralement, en plus, moi, j'ai testé avec des comptes de clients ou des comptes tiers. Et très souvent, en fait, c'est du... Les documents qu'on reçoit sont généralement assez bateaux. Il y a pas grand chose à en apprendre. Et le point que j'ai mis en place qui fonctionne bien, qui a bien fonctionné pour moi l'année dernière, qui vraiment m'a fait passer sans trop de difficulté la situation de l'année dernière, c'est les webinaires que j'ai. En fait, les webinaires j'en fais depuis très longtemps, mais pour le compte d'autres. Ou sponsorisé par, et là j'ai fait mes propres webinaires à moi que je continue à faire toutes les semaines. Et en fait, c'est des webinaires qui sont j'ai retenu les recommandations de Loïc et qui ne sont pas gratuits mais offerts. Donc je ne parle plus de gratuit mais de offert. Est-ce que je pense tout dans la perception que les gens en ont. Et suite à ces webinaires, je prends des rendez-vous derrière. Donc pendant le webinaire, il y a le lien Calendly qui sort en direct. Hein, les gens sont prévenus. Voilà, pour ceux qui veulent causer le sujet, vous prenez rendez-vous. Les rendez-vous font tous 30 minutes.
C'est ça.
Sinon, c'est juste déjà 30 minutes quand on a 5 ou 6 dans l'après-midi, c'est quand même un rythme assez soutenu. Ouais. Mais ces rendez-vous sont des rendez-vous de pré-vente. Et qui transforme à 70% derrière. Et là, du coup, il n'y a aucun outil. Moi, je te dis, l'année dernière, j'ai eu en moyenne plus de 100 rendez-vous comme ça avec les webinaires de gens qui étaient demandeurs avec une transformation à 70% derrière.
Alors moi, c'est le seul. Alors,
pas de prospecting, pas de link helper, pas de phantom booster.
Et alors moi, donc, pour revenir, alors, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, je fais du webinaire et je fais du Calendly avec des 30 minutes, même sur des réseaux privés. Mais du coup, j'utilise quand même prospecting dans un scénario qui envoie là, du coup, une invitation pour le webinaire dans ma liste de prospects. Voilà.
Ouais, moi, les webinaires sont uniquement véhiculés par poste. Avec un lien.
Il y a le poste, il y a emailing et prospective. Ouais. Et du coup, par un webinaire, effectivement, bah, là, là, effectivement, je rentre des clients, ouais, clairement. D'accord.
Alors, je vais juste dire, moi, j'utilise aussi moi, j'utilise LinkedIn Helper. Et petite, pour confirmer pour ce que tu dis, Cyril, l'intérêt des articles, c'est aussi que maintenant, tu peux faire une newsletter et les gens reçoivent un email. Alors, tu n'as pas un taux de ouf.
Non, non, non.
Mais,
Non, tout le monde n'a pas, la newsletter, Frédéric. Moi, je n'ai pas la newsletter.
Oh, quasiment
je
peux tout
pas.
Le monde.
Non, je n'ai pas de newsletter. Et je regarde avec mes clients, il y a très peu de gens qui ont la newsletter. Jean-François, là, tu l'as peut-être. On en a parlé ce matin dans, dans une session précédente. Moi, je n'ai pas l'option de newsletter et beaucoup n'ont pas l'option de newsletter. C'est scandaleux. Moi, je suis un des. À l'époque, quand LinkedIn a déployé des publications, il y a eu les influenceurs internationaux, il y a eu les influenceurs locaux. Et après, LinkedIn, c'était en 2014, je crois, ou 2015, a autorisé 100 personnes à publier. Moi, j'ai parti des 100 premières personnes qui ont été autorisées par LinkedIn à publier en France. C'était au mois d'avril avant que tout le monde soit. Et accès à la publication en décembre de cette même année. Et donc à l'époque, j'étais très bien traité par LinkedIn. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Et LinkedIn l'a blacklisté et je n'ai pas l'option newsletter. Et l'option service qu'on peut mettre sur le profil, qui a été déployée en décembre 2019, moi, je l'ai récupéré simplement en novembre 2020. J'ai vu qu'Olivier Valinguet avait levé la main, il avait une question, je pense.
Oui, merci. Merci Cyril. Bonjour Fred, bonjour Cyril, bonjour à chacun. Bonjour Sophie, je vous ai demandé en contact, je t'ai demandé en contact. J'ai juste une question pour, par rapport à Cyril qui va peut-être reprendre ses articles. Moi, alors déjà, merci à tous pour toute la valeur. J'ai une question par rapport aux articles. À chaque fois que j'ai l'impression que les articles ne sont pas montrés en fait. Moi, il y a des articles qui ont beaucoup de valeur. À chaque fois que je les mets, je les transmets en direct, les gens réagissent finalement dessus, mais sinon, ils ne sont pas montrés. Est-ce qu'il y a une astuce qui permettrait justement de les montrer davantage? Alors, il y a des posts que je fais qui pointent vers ces articles. Bon, ça, c'est, j'ai essayé 10 000 choses. Il y a des articles qui sont anciens, qui sont plutôt valables. Et d'ailleurs, certains ont rejoint des publications, mais ils ne sont pas montrés. C'est mon impression. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai plusieurs réponses par rapport à ça, Olivier. La première chose, c'est que tu fais bien attention à l'évolution d'un interface LinkedIn. Jusque premier trimestre 2020, quand tu étais sur ton tableau de bord, sur ton profil, sur un profil LinkedIn, tu avais deux colonnes, à gauche le dernier article et à trois les publications. Ça a complètement disparu en mars-avril 2020. Maintenant, tu n'as plus que les dernières interactions, les articles ont disparu. Donc, il faut cliquer sur « voir plus » dans le tableau de bord pour aller sur l'onglet de la page suivante où tu verras le triptyque article, post, interaction, etc. Ensuite, octobre ou novembre 2020, le moteur de recherche a changé et tu es parti d'un bouton de recherche dans le contenu à un bouton de recherche dans les posts. Les posts, c'est quoi? C'est les contenus moins les articles. Donc, clairement, LinkedIn est rentré dans une dynamique où ils veulent vraiment que les articles soient main vue. Pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est qu'un article, c'est 5 à 6 minutes de lecture. En moyenne, quelqu'un passe 17 minutes par mois sur LinkedIn. Si dans les 17 minutes par mois que tu passes sur LinkedIn, tu lis 3 articles, ça n'intéresse pas LinkedIn. Ce que LinkedIn veut, ce n'est pas que tu passes 17 minutes à lire 3 articles, mais 17 minutes à voir 50 posts. Et j'ai lu un article intéressant d'un chercheur en France qui a dit un truc tout à fait juste, c'est que LinkedIn n'a absolument aucun intérêt à diffuser du contenu de qualité. LinkedIn n'a pas intérêt à ce que dans ta page d'actu, tu as ton contenu de qualité parce que sinon, tu ne cliques pas sur la pub. L'objectif de LinkedIn n'est pas que tu vois du contenu de qualité. L'objectif de LinkedIn, c'est que tu cliques sur la pub. Or, si dans ta page d'accueil, tu as trop de contenu de qualité, tu vas lire ce contenu, tu ne cliques pas sur la pub et tu es donc totalement à l'encontre du business model de LinkedIn. Et pour bien connaître LinkedIn et pour avoir été leur ambassadeur officiel en France pendant 3-4 ans, au moment où ils ont créé leur bureau à Paris, je ne serais pas étonné que ce soit la réalité.
C'est ce que j'ai senti, j'en ai fait le constat seul sans pouvoir en discuter à chacun et du coup c'est pour ça aussi que j'ai un peu freiné parce que je mettais beaucoup de qualité mais en fait ça fonctionne, enfin de ce côté là ça fonctionnait pas même s'il y avait des postes qui rejoignaient. Voilà.
Juste un point de complément et après j'ai vu que Jean-François a activé son micro
avec plaisir, merci.
À lever la main. Moi je préfère largement avoir 100 lecteurs sur un article que 200 000 sur un poste, très clairement. Et quand quand je regarde tous mes articles dont je sais que unitairement ils m'ont rapporté plus de 100 000 euros de business, unitairement sur un article, et je sais très bien lesquels, parce que je sais très bien quel article a déclenché quel rendez-vous, etc. quand je les ai publiés, je me suis dit, merde, c'est une catastrophe, c'est un bide, je me plante, je me suis planté, il y a un truc qui n'a pas vraiment fonctionné. Sauf que dans le lot, il y avait un décideur d'un grand compte qui a généré un rendez-vous d'ailleurs, qui a généré du business. J'en crois ça, il nous reste, je crois, une ou deux minutes.
Une minute, c'est passionnant.
Jean-François.
Ouais. Très rapidement sur les news. Donc oui, je confirme que peu y ont accès. Moi, j'y ai accès. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un super service. Quand je vois, je ne comprends pas comment LinkedIn décide de qui a accès ou pas, parce que quand je vois que quelqu'un comme Cyril n'a pas accès, je me sens un peu usurpateur, parce que s'il y a quelqu'un qui publie des contenus intelligents, c'est bien Cyril. En revanche, si vous avez accès à ça, c'est vachement bien. Juste pour vous donner quelques stats, donc moi, une news que je publie, c'est 3000 visites, 3000 vues le premier jour, et c'est des vraies vues, hein. C'est pas des impressions, c'est une centaine de réactions, et c'est un ou deux emails qui me ramènent un ou deux clients par mois. Ouais. Donc, c'est d'une efficacité terrible parce que c'est hyper ciblé. Et je dirais les 3000 vues, on s'en fout. En revanche, ce que ça permet, c'est de rentrer dans une profondeur où les gens derrière nous contactent en disant « Est-ce qu'on peut bosser avec vous ?» Voilà. Donc ça, c'est très bien. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que quand LinkedIn va ouvrir ce service-là, ils vont probablement moins le pousser. Et en fait, ils font ça souvent. Quand ils lancent un nouveau truc, ils le poussent. Et ensuite, quand tu as la chance de l'utiliser, tu n'as plus les bénéfices parce qu'ils ont arrêté de pousser le truc.
Ils le monétisent.
Ou ils le monétisent.
C'est ça. Et après, moi, je voulais aussi, juste avant qu'on coupe, parler de la vidéo. Quand vous utilisez la vidéo sur LinkedIn, quand vous regardez vos vues, pensez bien que ça veut dire qu'elles ont réellement été vues, hein, parce que sinon ça peut être, on sait bien que sur les posts c'est juste du scroll, ça peut être juste du scroll, mais la vidéo elle a été vue.
Voilà. Nous nous réunissons tous à nouveau. Vous arrivez tous. Alors, vos micros ont été éteints automatiquement par le système. Moi-même, j'ai dû remettre mon micro. Donc, ceux qui voudront parler, il va falloir remettre vos micros. Merci à tous ceux que je vois. Alors, je vais remettre la discussion et je vais remettre la liste des participants ici. On continue le streaming. J'ai fait le streaming, en fait, de la session sur le growth hacking responsable, hein, n'est-ce pas? Et les trois autres, comme vous avez enregistré vos sessions, vous me les envoyez par WeTransfer, si vous voulez bien, de manière à ce que je puisse les uploader sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum, brut de fonderie, hein, d'accord? Voilà, donc je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai une question pour les participants à chacune des quatre sessions. On va commencer par la session sur Vendez Plus. Je voudrais qu'un des participants me donne les trois choses qu'il ou qu'elle a apprises. Apprises, hein. Alors, allez-y, levez la main et parlez. Quelqu'un qui a participé à la session Vendez. Vendez. Vous m'entendez ou m'entendez pas? Hein?
Si, on t'entend.
Ah oui, d'accord. Donc, il y a bien eu des participants à la session Vendée. Là, vous étiez pas mal, non, assez nombreux. Donc, est-ce qu'il y a un participant qui lève la main et qui veut nous expliquer ce qu'il a appris ou ce qu'elle a appris, une participante? En dehors du fait que certains d'entre vous ne veulent pas être sur les réseaux sociaux et tout ça, on pourra en rediscuter à un autre moment. En dehors de ça, qu'est-ce que vous avez appris dans la session? Personne?
Comme on a coupé la parole à Chanez, est-ce que tu veux bien? Parce que je trouve que tu résumes parfaitement cette session, donc je te resollicite.
Chanez, montre-toi. Ah, je te vois. Voilà, vas-y, Chanez. Mets ton micro, mettez votre micro parce qu'il est... Voilà, vas-y,
c'est bon,
Chanez.
Je l'ai mis. Donc, je vais essayer de répéter un peu ce que j'avais résumé à la fin de cette session. Ce que j'ai noté, c'est que pour vendre mieux aujourd'hui, on ne doit pas tout d'abord négliger la vente traditionnelle, tout en mettant donc l'accès sur la vente digitale, donc sur les réseaux sociaux, que ça soit LinkedIn ou le réseau de choix de chacun d'entre nous. Et également, il y a aussi le problème de visibilité. Donc, certains d'entre nous ont du mal à être visibles ou peut-être ne comprennent pas pourquoi ils devraient être visibles dans le cadre de la vente, de la vente digitale. Bien qu'aujourd'hui, quelqu'un dans la session avait, je dirais même deux personnes dans la session avaient soulevé le point de se vendre. Donc, comment se vendre? vendre en dehors de vendre nos solutions, nos services, nos produits afin de mieux répondre donc à la demande de nos clients. Et ben moi je dirais que la visibilité est très importante parce que de toutes les façons si nous voulons vendre faire de la vente digitale, et ben il faut être visible comme aussi dans la vente traditionnelle par le passé, c'était la publicité, c'était les flyers, c'était appeler au téléphone, ce qu'on fait toujours.
Effectivement,
mais peut-être avec plus d'accès sur la vente digitale.
Ok, voilà. Ok. J'ai un petit peu écouté ce que vous disiez à un moment donné. On va pas revenir dans le débat d'ailleurs qui s'est passé. Vous pourrez en rediscuter cet après-midi dans d'autres ateliers. Deuxième groupe, le groupe c'était quoi le deuxième groupe que dont je voulais vous parler, c'est lequel? Transformer votre organisation. Transformer votre organisation. Un participant de ce groupe-là. Allez, quelqu'un. Vous n'étiez pas un groupe très nombreux, je crois, mais quand même.
On peut passer la parole à Bernard-Marie, puisque tu lui as coupé la parole au moment où il allait s'exprimer.
Mais il faut faire une synthèse, par contre. Hein,
oui, pas du coup, c'est pas du tout le même exercice. Et, en fait, je peux faire une synthèse. Et, on a beaucoup parlé. Tout était centré. Enfin, l'essentiel du propos était centré sur l'humain et sur le vivant. Et on peut faire la synthèse. Je pense que c'est la bonne. Enfin, voilà, c'est ce qui m'est retenu. Alors, peut-être que. Et j'allais intervenir sur le fait, attention, mais j'ai pas eu le temps. Il manque un élément, c'est que à force, la question, c'est pas de mettre de l'humain dans l'entreprise. On raconte ça depuis des décennies. Si ça marchait, on le saurait. La question, c'est d'être un peu plus large et de mettre de la vie dans l'entreprise, dont l'espèce humaine fait partie. Et que c'est le problème général de la planète, d'ailleurs, d'être tout centré sur l'humain. Il faudrait qu'on se décentre un peu. C'est ça que je voulais ajouter à la fin.
Ok. Quelqu'un peut-il rajouter une autre synthèse parmi les animateurs cette fois-ci, si quelqu'un veut donner une synthèse en trois points, hein, rapide. Hein.
Loïc, j'ai envie de dire, est-ce que Cécile ne veut pas le faire parce qu'on ne l'a pas entendu? Cécile, est-ce que tu voudrais?
Peut-être qu'elle n'est pas là et je ne la vois pas.
Si, je suis là. Alors ça, c'est un exercice pas si simple que ça. C'est toujours plus facile d'écouter que de faire une synthèse.
On ne te voit pas, Cécile, on ne te voit pas.
Non, mais c'est parce que ma caméra, là, n'est pas tout à fait opérationnelle.
Ok, vas-y,
donc,
parle.
Du coup, je laisse plutôt ma photo souriante. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'avoir plusieurs approches, mais qui finalement se mettaient d'accord à la fin. J'ai quand même entendu la problématique de Renault que j'ai déjà moi rencontrée, qui est vraiment de faire prendre conscience aux entreprises de tout l'intérêt qu'elles ont à repenser leur manière de communiquer. Et moi, j'irais peut-être encore même un peu plus loin. Est-ce que on pourrait pas plutôt partir de leurs clients? Pourquoi je parle de ça? Parce que je suis vraiment centrée expérience utilisateur, c'est en train de devenir mon dada. Et je pense qu'il y a aussi à réfléchir au sein des entreprises le why de Simon Sinek, le sens de pourquoi on fait ça, s'appuyer sur ce que propose Claude qui est de travailler sur le facteur humain pour aider l'entreprise à mieux s'approprier aussi la vie qui se passe en elle pour ensuite aller vers du sens, mais ne jamais oublier que tout ça, ça se fait dans un seul objectif, c'est quand même de travailler pour les clients et pour une expérience utilisateur. Et donc, moi, j'irais même encore plus loin. C'est de repartir vraiment de la base en disant, mais quels sont leurs besoins? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de nous? Et en quoi est-ce qu'on peut leur apporter des réponses? Okay. Et pour chaque entreprise.
Merci, voilà. Merci. Alors, j'espère que c'était une synthèse correcte, parce que là, vous rajoutez chaque fois des nouvelles notions dans ce que vous racontez, ce qui est très bien. OK, troisième groupe, ETI, grande entreprise. Alors, il n'y avait pas grand monde dans ce groupe-là. C'est d'ailleurs souvent le cas au Social Selling Forum. C'est plutôt des PME, des entrepreneurs, des coachs, des consultants. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette session? Alors, n'importe qui était dans cette session, allez-y. Quelqu'un? Voilà. Allez. Il y avait quand même quelques personnes hein, dans le groupe, non?
Oui, Loïc, on avait quelques personnes. Voilà. Elles étaient muettes. Alors, on a eu...
Donc, vous, allez-y, vas-y.
Avec des questions très, 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 très générales, on a eu les questions habituelles de est-ce que le management doit donner l'impact et générer... voilà, donc, on avait un débat entre est-ce que le mouvement doit venir de la direction générale et du management, ou alors est-ce que ça peut être des petits groupes dans l'entreprise? Et on a eu une petite discussion sur le sujet. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse.
Bon. Donc, vous n'avez pas tranché.
On avait des avis différents et j'ai des exemples dans les grandes entreprises où on a fait différemment et où ça marche bien aussi selon la culture de ces grandes entreprises.
OK. Donc, il n'y a pas de règle absolue, comme on l'a déjà dit d'ailleurs depuis ce matin. Ouais. Très bien. Dernier groupe, le groupe de Growth Hacking Responsable. Allez, un participant ou deux de ce groupe-là rapidement. Quelqu'un qui a participé. Vous étiez nombreux là, alors. Allez, personne qui ose prendre la parole là. Allez-y, parlez directement. Ou sinon, c'est un des animateurs qui nomme un participant, comme on l'a fait à l'instant.
Annick, elle a posé plein de questions.
Voilà, Annick, tu as posé plein de questions. Mets ton micro.
Oui, alors, j'ai posé en fait une question initiale qui consiste.
Donc, qu'est-ce que tu as appris? Donc, quelles sont les trois choses que tu as apprises hein?
Déjà de commencer peut-être par une, si on veut faire d'automatisation, commencer par une invitation qui soit une vraie invitation, qui soit pas une proposition. Et puis ensuite aller sur quelque chose peut-être de plus automatisé avec des systèmes qui soient vidéo, qui soient mail, qui soient externalisés ou qu'on le fasse à la main. Mais déjà commencer par une approche réellement en lien avec l'autre et pas une intrusion. Comme on le subit tous, d'accord, plus ou moins. Après, le débat a été peut-être un peu plus, par moments, sur des outils techniques sur lesquels je ne suis pas encore, et je crois que je ne vais pas y aller, tout simplement. Je vais continuer comme je suis, avoir des retours, on va dire, spontanés de la part des gens qui m'invitent en contact, et à le faire quand je trouve des vrais points de résonance avec quelqu'un. Okay. Après, des conseils intéressants aussi sur les ratios en fonction de l'ancienneté du compte. Si on a un compte qui a été créé il y a 3 semaines, il ne sera pas vu, il ne sera pas autorisé à faire autant d'invitations qu'un compte qui est plus ancien.
D'accord.
Avec un ratio qui disait, par exemple, le jour où on publie, on peut faire 30% de demandes de connexion et d'invitations de plus et de visites de profil de plus que les jours où on ne publie pas. Et aussi une indication qui dit aussi qu'il peut y avoir des sanctions, on va dire, si on a tendance à traiter tous nos contacts, nos réponses, nos commentaires, etc., le même jour, plutôt que de les étaler dans la semaine. Ça peut être mal perçu par LinkedIn, qui peut penser qu'on est un robot.
Voilà. Bon, j'irai réécouter tout ça. Merci beaucoup, Annick. J'irai réécouter tout ça. Alors, je vais quand même donner à Frédéric Canvet, notre staccanoviste du marketing depuis des années. Et puis, il écrit comme c'est pas possible. Lui, donne-nous en une phrase ta synthèse, toi, Fred. Allez.
Alors,
ça y est, on a un Zoom Bomber. Ça y est, on en a un. C'est bon, hein. C'est bon. Alors, vous l'avez. Quelqu'un l'a trouvé, le Zoom Bomber, là? Non?
Oui. Fred, dans ça.
Vas-y, Fred. C'est toi.
Oui, je voulais, c'est peut-être pire. Moi j'aurais dit. Ouais, c'est Yulo Jules qui est le bomber là. Yulo Jules.
Ouais. Le prénom c'est quoi?
C'est la tête avec le téléphone là. Et...
Le prénom. Oh. Ah oui, voilà, je le vois.
C'est bon, j'ai stoppé le micro là.
C'est bon. Ouais, mais tu m'en parlais de tes Zoom Bombers, genre voilà. Donc moi en fait, je dirais que j'ai vraiment été intéressé par ce que faisait Julien et moi qui fais du gros hacking, j'ai même appris 2-3 trucs puisque le fait de faire des petites citations pour l'anniversaire avec une citation célèbre, je le faisais pas, je faisais un anniversaire classique et là, je trouve que c'est intéressant et j'utilisais un VPN et là il nous a recommandé le proxy 3G qui est plus efficace pour se faire passer pour un téléphone et ça merci Julien, c'est des dons, des bonnes astuces.
Ah, un deuxième là.
Bon, je vais te laisser reprendre. Ah,
il t'aime bien, Fred. J'aime bien
les Zoom Bombers.
C'est le même, Loïc. C'est le même, je l'ai mis en salle d'attente. Hein.
Ah oui, mais moi aussi. Oui, d'accord. Donc, j'ai mis une salle d'attente. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont co-animateurs, regardez de temps en temps la salle d'attente pour accepter les gens que vous connaissez, d'accord, hein? Pas lui, évidemment. Pas des noms bizarres. Ou sinon, on leur pose la question. Ok, on est reparti. Donc, on va arrêter d'ailleurs cette session. Ça tombe bien. Merci beaucoup pour cette série d'ateliers, je vous remercie. C'est pas toujours facile, hein, les ateliers, je vais vous avouer, sur Zoom, c'est moins facile que dans la vie réelle. C'est la chose qui est moins facile que quand on le fait en chair et en os, en parallèle, n'est-ce pas? Peut-être vous l'avez vérifié. Bon, c'est quelquefois un peu chaud, quoi, les ateliers. à tous les niveaux. Mais bon, c'est bien d'en faire de temps en temps quand on a trop d'animateurs, etc., comme c'est le cas en ce moment pour cette session-là. Je vous souhaite, on va pouvoir déjeuner en écoutant Jean-François Messier, la conférence de Jean-François. Vous pourrez enlever vos caméras pendant un certain temps et déjeuner comme je vais le faire, mais écoutez religieusement ce que Jean-François va